nasza policja.
A czy les voilà, c'est la police.
Napoléon Bonaparte ma w stanie hus.
C'est comme Napoléon Bonaparte, il avait une noix dans sa tente.
Ah bon? Oh. Voilà.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desbras et Monsieur T.
Bonjour à tous, bienvenue en Slovaquie, troisième jour de voyage, toujours au centre du pays, avec un reportage signé Pascaline Minet.
On est au Salaj Krajinka. Donc un salaj, si j'ai bien compris, c'est un endroit où on fait du fromage. Et là on dirait qu'il y a plein de petits chalets traditionnels. Il y a des gens qui sont installés sur des tables et qui mangent, donc c'est aussi un peu un restaurant je pense, en plein air. On peut acheter des produits locaux. Il y a un troupeau de moutons. Toujours un très beau paysage. Oui, donc là, on approche d'une maison et il y a plein de gens qui mangent. Donc c'est effectivement aussi un restaurant. On rentre dans le chalet, on va chercher le monsieur.
Et nous sommes toujours aujourd'hui au cœur de la Slovaquie, en plein centre du pays, dans cette magnifique région de montagne qui vit du tourisme, on l'a vu hier, et de l'élevage. Une Slovaquie rurale, rustique même, attachée à ses traditions, authentique. Des mots à mettre bien sûr entre guillemets, parce que les traditions, comme l'authenticité, c'est bien évidemment aussi une construction pour séduire les touristes, bien sûr, mais également plus profondément pour essayer de dire l'identité, de dire qui on est et d'où on vient de manière positive. Ce qui n'est pas simple en Slovaquie, parce que ce pays n'est pas l'Islande, ce n'est pas une petite île isolée du monde. La Slovaquie, elle est au milieu de l'Europe, c'est un pays métissé, situé au carrefour de peuples, de cultures, de langues et de religions différentes. Ses frontières ont bougé, son histoire est complexe. Et si le pays a parfois été indépendant, il s'est aussi parfois retrouvé englobé dans des entités plus larges, comme la Tchécoslovaquie ou avant cela l'Empire hongrois. En seconde partie d'émission, on parlera de ce qui fait l'identité slovaque avec notre invité. Il s'appelle Stanislav Kirschbaum. Il est professeur et directeur du département d'études internationales à la York University de Toronto, au Canada. Et il est particulièrement bien placé pour nous parler des relations que les Slovaques entretiennent avec leur passé, avec leur tradition. Tout d'abord parce que Stanislav Kirschbaum a écrit une histoire de la Slovaquie, mais aussi parce que cet homme qui est né à Bratislava a vécu les 40 premières années de sa vie hors de son pays, à Genève tout d'abord, puis au Canada. Son père était diplomate très actif dans la diaspora anticommuniste et il a donc été nourri par les récits d'une Slovaquie imaginaire, une Slovaquie idéale, dont il nous parlera tout à l'heure. Il sera avec nous en direct de Toronto. Et puis là, c'est dans un vrai bistrot, tout à fait réel, tout à fait concret, qu'on vous retrouve, Pascaline Minet. Il ressemble à quoi ce bistrot ?
Bien, en fait, c'est vraiment une grande salle, hein, une grande salle de restaurant haut de plafond, avec des tablés un peu type cantine. Il y a plein de serveurs qui vont et viennent avec des plats, la décoration, ça évoque un peu le chalet. Donc on est dans le restaurant du Salaj Krajinka, c'est le nom de cet endroit. Le Salaj, normalement, c'est un lieu à la campagne où les gens viennent se fournir en produits laitiers, particulièrement en fromage de brebis, c'est la tradition de la région. Mais le Salaj Krajinka, c'est un peu une version moderne de ce type d'installation. Ici, il y a non seulement une boutique de fromage, mais il y a aussi un restaurant, des commerces, un jardin avec des sculptures. Enfin, les gens viennent vraiment là un peu en famille pour se détendre. D'ailleurs, il y avait vraiment foule le jour où j'y suis allée.
C'est une grande exploitation ?
Oui, c'est une grande exploitation dans la région. D'ailleurs, il y a pas mal de panneaux qui l'indiquent quand on est sur la route. Et puis, tout autour de ces installations que je vous ai décrites, il y a des pâtures avec des centaines de moutons qui broutent.
Et qui est le monsieur avec qui vous avez rendez-vous ?
Alors, le monsieur en question, c'est Josef Badanic. Et c'est un des dirigeants de cette entreprise qui a été créée il y a 30 ans. Alors, quand on l'a rencontré, on était un petit peu étonnés, moi et Katarina, parce qu'on s'était attendu à un patron de fromagerie. Je ne sais pas quelle image on s'était fait vraiment, mais là, on a été étonnés parce que ce Josef Badanic, c'est un homme d'une trentaine d'années, en short. Il arrivait en short avec des tongs, il a un fort accent américain. Enfin, vraiment, il manquait un peu plus qu'un surf, c'est ce que m'avait dit Kat à ce moment-là. Donc c'est pas vraiment là qu'on l'aurait imaginé. Et pourtant, quand on discute avec lui, eh bien, on s'aperçoit qu'il se sent ici parfaitement à sa place et même qu'il se sent presque investi d'une mission qui serait un peu de défendre la tradition. C'est vous qui avez créé cet endroit ?
Rodina.
C'est ma famille.
C'est moja matka, tým, že pochádzala z poľnohospodárskej rodiny.
Ma mère vient d'une famille rurale.
A bohužiaľ, politický režim nie, v podstate...
Malheureusement, comme ça l'était à l'époque, l'État a pris cette possession de ma famille.
No a v podstate prirodzene človek to, čo má v sebe.
Pas tout le monde y arrive, mais après que le régime soit fini, les gens ont essayé de retrouver leurs origines, et moi je l'ai réussi.
Et les salages à l'origine, c'est pas des restaurants, c'est vraiment juste le lieu où on produit du lait.
Většinou to bolo tak, že v podstate tie salaše, originál tie salaše sa nachádzali veľmi ďaleko niekde v prírode.
Les salages, la plupart du temps, sont éloignés des villages et des villes. Et régulièrement, on descend les produits dans des villes et des villages. Le produit, pour la plupart du temps, c'est le lait qu'on diversifie après et dont on produit des fromages.
Vzhľadom na to, že sme geograficky tak položení, ako sme pri hlavnom ťahu, bohužiaľ u nás na Slovensku alebo na Liptove.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un contexte mondial, il faut être compétitif sur le marché. Et la manière d'avoir du succès, c'est en fait pas seulement de diversifier des produits, mais en fait de diversifier les services. Et donc le fait d'y avoir un restaurant, c'est une manière de le faire. Parce qu'il y a des corporations étrangères qui pourraient éventuellement être les investisseurs aussi dans ce domaine, mais on arrive à le faire nous-mêmes tout seuls, et on y arrive grâce à une chose, c'est qu'on fait les choses avec du cœur. Pour répéter de ce qui concerne ma famille, ils m'ont appris une chose, et c'est que ce qu'on fait, il faut faire avec du cœur. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est fait avec du cœur, et c'est pour ça qu'on a du succès.
On est arrivé devant un petit chalet. Et c'est comme chez McDonald's, comme un drive-in en fait, un peu, on s'arrête et on peut se commander à la dame derrière la fenêtre et il y a tous les produits derrière, c'est ça ?
Il y a tous les produits, toutes les sortes de fromages.
Là, il y a un panneau avec tous les produits et alors pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas, tu ne peux pas trop deviner, hein.
Ouais,
Corbacci, que...
Nous,
on croit être en fait les seuls en Slovaquie qui produisent brinza. Parce que brinza est devenu un mythe.
Ten rozdiel, že v podstate vy si môžete kúpiť vo Francúzsku od veľkých firiem si môžete kúpiť baktérie.
La vache, elle donne 13 litres de lait par jour, alors que le brebis n'en donne qu'un litre. Et donc il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des produits spécifiques pour enlever la lactose du lait de la vache, pour dire que c'est le lait de brebis.
A potom to ešte spasterizujú.
Après, ils font la pasteurisation.
A potom sa to mlieko tvári ako že som ovčie.
Et après le lait est considéré d'être de brebis.
Mais ça n'a pas le même goût quand même.
Petit to
n'a pas le même goût. Mais les gens ne savent plus comment le vrai goût devrait l'être et donc on doit les réapprendre ce que ça veut dire brinza pour de vrai.
Comment avez-vous appris toutes ces techniques ?
V podstate pokus omyl. Knihy.
Les livres et j'essaie et je me trompe.
A tradícia je v podstate tak zahrabaná.
Parce que la tradition est tellement caché, en fait, tellement plus compris.
Už ani starí ľudia vám nevedia jasne povedať, že či dávať povedzme.
Même plus les personnages ne connaissent pas vraiment la tradition telle qu'elle l'était.
Ani nie tak kvôli komunizmu, ale kvôli nezáujmu tých ľudí.
Parce que pendant les dernières 40 ans, on était mené à ne plus comprendre de vraies valeurs et de créer des liaisons avec des traditions.
Ça te plaît, non, comme endroit?
Ouais.
Il y a des oies. Ah, c'est les oies, là, c'est la police.
C'est comme Napoléon Bonaparte, il avait une oie dans sa tente.
Ah bon? Voilà.
Budem teplo, alebo budeme.
Normalement, on devrait les avoir au dehors, mais certains on les garde dedans. Parce qu'on a des mauvaises expériences avec des loups. Il y a plein de loups et en fait, il y avait déjà 30 brebis qui ont été tuées.
Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous la tradition?
C'est ma
mère qui nous éduquait comme ça.
Vždy sme mali doma zvieratka, vždy tam bolo niečo, vždy nám rozprávala o tom, ako sa takedy im zbieralo seno, ako to celé fungovalo a ten vzťah.
On nous racontait toujours comment ça se passe dans la nature, à la campagne.
V podstate, ako keby nám predala to, čo jej predal starý otec, tú tradíciu nejakú, tú takú, ten vzťah.
C'était ma mère, en fait, qui m'a appris, qui était apprise par son grand-père.
A v podstate, bolo na mne, čo si vyberal.
C'était à moi de choisir ce que je veux.
V podstate ja absolútne vlastne to nie spoločné.
Avant, je travaillais pour Royal Dutch Shell. On cherchait des puits de pétrole.
Où ça?
Po celom svete. Austrália, Čad,
Austrálie, Čad,
Polynézia,
l'Afrique du Sud,
Kanada,
Polynézie, Kanada. Že cestovali ste veľa.
Videl som, čo dokáže veľká korporácia.
Comment fonctionnent les grandes corporations.
Profesionálne som s tým nemal problém, lebo ma platili, čiže som musel byť profesionálne.
Je devais rester professionnel, et puis ils m'ont payé, donc il fallait accepter les choses telles quelles.
Ale ako človek som s tým začínal mať čoraz väčší.
Point de vue humain, je commençais à me sentir de moins en moins à l'aise.
A v podstate, čím je človek starší,
plus on mûrit, plus on se pose des questions et on tend à se connaître nous-mêmes. Beaucoup mieux.
A v podstate, vtedy som tam zrazu našiel
et
to,
à un moment, j'ai trouvé en moi ce que ma mère voulait ancrer en moi.
A dneska vlastne toto je výsledok toho celého.
Voilà le produit de ce ressentiment.
Buď v tom spektre vidíte tú šancu.
Dans le spectre, vous pouvez voir une chance se créer.
Alebo ste zavalený tou prácou a tým tlakom.
Ou bien, vous vivez dans un stress et sous une certaine tension qui vous empêche de voir vos chances. Que vous pouvez complètement louper.
Et ça fait pas trop bizarre de passer de voyageur à tout dans tous les coins du monde à une petite ville en Slovaquie?
Opäť som prišiel na niečo. Človek niekedy musí v sebe potlačiť trošku tú osobnosť a nejakú
dans la vie, il faut faire des choix qui portent des responsabilités. Et des fois, il faut juste pas se poser trop de questions.
A tu sa dostávame k tomu vlastne meritu veci, že u nás
chez nous, en Slovaquie, les gens n'ont pas beaucoup de respect l'un pour l'autre.
Čiže kolega nerespektuje kolegu.
Un collègue ne respecte pas trop l'autre.
Alebo si myslí, že to dokáže lepšie ako ten druhý.
Parce qu'il croit qu'il peut mieux faire que l'autre.
Tak sa potýkate vlastne s tým, že je to horšie ako v škôlke, ako s deťmi, s malými.
C'est pire qu'à l'école primaire des fois.
Čiže s takou, ja neviem, ako to je vo Francúzsku, teda vo Švajčiarsku, ale u nás je to tak.
Mais c'est comme ça chez nous, on ne voit que des mauvais côtés.
Et comment ça se fait?
Aj, ale v podstate kvôli tomu, že človek si mýli a
qu'on n'a pas compris que la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Parce que la différence, c'est que la démocratie, c'est le résultat du fait que les gens se sont mis d'accord sur quelque chose. Et on n'arrive pas toujours à comprendre ça.
Ovo svi znamo, je li tako?
On a repris la route ce matin, on est jeudi, on a quitté Rosenbelock, sa région, on a changé de région. On a dû faire, je sais pas, 100 km, peut-être, un peu plus. On est passé à côté des Tatras et là, on est dans un skanzen, mais je ne sais pas exactement où. On est où, Kat ?
Stara Lubownia, pas loin de la frontière polonaise, dans un skanzen Stara Lubownia.
C'est quoi un skanzen ?
C'est la reproduction d'un village très ancien où personne ne vit, mais ça sert de musée en fait.
On est dans quelle région ? On a changé de région par rapport à ce matin ?
On est dans la région de Spich.
Voilà, on est dans ces skanzen, on marche sur un chemin et autour de nous il y a plein de petites maisons en bois traditionnelles avec des mannequins pour jouer les personnages. Et on va retrouver une dame qui est spécialiste. L'église, elle est jolie, t'as vu ? Tout en bois. On dirait des tavillons, on appelle ça en Suisse, des petites lattes de bois comme ça, sur toute la façade.
La demoiselle Pavelčíková.
Dobrý den.
Pavelčíková.
Pascaline Minet.
No a náš skanzen, teda jeho počiatky spadajú do konca 70. rokov,
keď sa započalo s výstavbou. On a commencé à reconstruire le village au début des années 70.
Et c'est quoi le principe de ce musée ? C'est des maisons qu'on a reconstruites ou c'est les maisons d'origine ?
Tieto domy pochádzajú z okolia Starej Ľubovne, čiže z regiónu Horného Spiša a Horného Šariša.
Donc ça c'est des maisons originales qui ont juste été transportées par le transit des environs de Spiš.
Koncepcia výstavby našej expozície.
Toute cette exposition comprenne les maisons qui représente la population de plusieurs ethnies qui vivaient dans la région. Donc on y compte les Slovaques, les Allemands de Spich, à partir du XIIIe siècle, c'était la colonisation allemande.
Potom 15. 16. storočie bola valašská kolonizácia, čiže z juhu od Skarpat z Rumunska
prichádzala taká zmiešatná etnicina a boli to
Valašská. Potom tu dosídľovali neosídlené územia
ešte z polskej strany, Kopaničiar,
tzv. Kopaničiarská, čiže kolonizácia ešte do tých našich
polovok. Plutôt vers la Pologne.
Potom tu ešte žili početne Židia a Romovia.
Et puis on pouvait y trouver aussi des Juifs et des Roms.
Romovia v regióne Spiš,
c'est le roi Žigmund de Luxembourg qui a permis aux Roms de s'installer ici. Et les Roms sont arrivés en fait en 15e siècle.
Multietnický región. Áno.
C'est une région multiethnique.
Comment ça se fait ? C'est une raison géographique ?
Non, boli sme takou križovatkou.
On est la croisade géographique, tout ce qui était commerce, croisade des cultures et des civilisations.
Est-ce qu'on peut peut-être aller voir une maison ?
Nos maisons avaient une chambre où les gens habitaient. Et tout derrière, il y avait le lieu pour stocker les choses.
Et là, il y a un petit jardin à l'entrée. Et on monte les escaliers, on va rentrer dans la maison. Maison en bois. Attention à la tête.
Ľudia boli niekedy nízki, pretože od detstva ťažko sa pracovalo. Nemali takú dobrú výživu.
Les gens étaient beaucoup plus petits parce qu'ils travaillaient depuis le très jeune âge. Et ce qui faisait qu'ils restaient petits.
Aj nízke to všetko bolo.
Une autre raison, c'est de tenir la chaleur, d'avoir la petite porte.
C'est la maison de qui ?
Žila tu bezdetná rodina, čiže manželia bez detí.
C'était une famille sans enfants qui vivait ici, donc mari et femme.
Áno, manžel sa venoval okrem poľnohospodárstva
aj dratskému remeslu. Il était vanier et il partait souvent pour des voyages très longs au Balkan pour vendre les paniers.
A ona tu žila sama, preto tento priestor, tú izbu držala tak ako
puisque la femme habitait ici toute seule, elle gardait la chambre plutôt pour des raisons représentatives parce qu'elle n'en avait pas pas vraiment besoin de l'utiliser.
Mais vous connaissez comme ça l'histoire des gens qui vivaient ici?
A že ako poznáte takúto históriu tých ľudí?
No lebo ja som všade bola, tam a som skúmala.
Parce que j'étais dans le village pour étudier et pour faire mes recherches.
Là on voit la chambre d'un côté et de l'autre côté la pièce principale. C'est assez bas de plafond, c'est tout en bois. Et donc tout est reconstitué hein, avec les meubles, les petites icônes au mur, la vaisselle, etc., etc. J'ai vu qu'il y avait aussi des icônes au mur, c'était décoré quand même.
Ano, ano. To bol celý svätý kus. U nás nazývali švatýku, čiže svätý
kus, alebo kultový kult,
ktorý bol v dome otočený na východ. Keď si spájali napríklad zrub.
Ils avaient des croyances, par exemple à l'entrée de la maison, où les bois se croisent, ils mettaient entre les deux une pièce pour porter bonheur.
Elle montre le bas de la maison. Elle explique quelque chose avec la main.
Že to boli také praktiky tradičné, ktoré sa z generácie na generáciu odovzdávali.
C'était les pratiques traditionnelles qui allaient de génération en génération.
Donc ici vous gardez, vous conservez les maisons, mais vous conservez surtout la culture de l'époque.
A spôsob života človeka.
Et aussi la façon de vivre de l'époque.
Et vous, vous êtes quoi? Alors vous êtes ethnologue?
Ethnologue.
Oui, je suis ethnologue.
Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant sur les gens qui ont vécu dans cette région?
Les gens étaient très liés à la nature. La nature les inspirait aussi dans l'art.
Napríklad, medzi dreva natierali modrou,
voilà la couleur bleu clair qu'on peut voir entre les poutres.
Prirodzene to videli v prírode, modrá obloha a farba dreva.
Parce que c'est ce qu'ils ont trouvé naturellement. En regardant le ciel.
Ale medzi ľuďmi sa zachovali ešte staré také povedy,
že modrá farba odpudzuje zlých duchov. Ça empêche les mauvais esprits de venir.
A čo ma najviac fascinuje?
Ce qui est le plus fascinant pour moi, c'est la modestie de ces gens qui en plus ne consument pas en faisant mal aux générations futures, comme tu dis.
C'est les premiers à faire du développement durable.
Trvalo udržateľný. Áno, áno, áno. A že ten malý priestor im úplne stačil, pretože oni pracovali stále na poli.
Aussi la façon dont les villages étaient construits, où les gens vivaient d'une manière très proche,
že boli tak blízko seba.
Et en fait, ce qui faisait que les relations étaient très positives, très créatives, pas comme aujourd'hui où les gens s'éloignent pour être bien, eux, ils s'approchaient pour être mieux.
V tom jednom priestore izby dokázali pripravovať jedla, dokázali spať, robiť význam, teda sláviť sviat.
C'est des qualités humaines qu'on peut voir que dans une seule chambre, ils étaient capables de tout faire, dormir, habiter, cuisiner, faire les fêtes, toutes sortes de fêtes, même des mariages. Et puis, même si au milieu de la nuit, quelqu'un frappait à leur porte, ils étaient toujours prêts à ouvrir, à bien accueillir celui qui avait besoin de dormir quelque part, qui n'avait pas le toit sur sa tête. Et même si c'était par terre, mais on lui a donné le lieu pour dormir.
Monika Pavelčíková, qu'on vient d'entendre Pascal Inminé, on a l'impression qu'elle a un rapport complètement idéalisé au passé de son pays. C'est le cas des autres Slovaques que vous avez rencontrés?
Oui, effectivement, chez elle, c'est assez étonnant. On a l'impression que tout s'est toujours passé de manière ultra pacifique dans cette région multiethnique. Ça fait un petit peu la petite maison dans la prairie, c'est assez difficile à croire. Bon, moi, je connais pas assez bien l'histoire de cette région de Slovaquie pour la contredire. Mais c'est vrai que, comme vous le dites vous-même, Cyril, en fait, on remarque souvent chez les Slovaques cette idéalisation du passé. C'est quelque chose que j'ai retrouvé régulièrement, notamment chez Jozef Belanič, du Salaš Krajinka, qu'on a entendu juste avant. Puisque lui, ce qu'il veut, c'est que les gens retrouvent les valeurs sûres, qu'ils mangent des choses naturelles. Et voilà, effectivement, on dirait qu'il y a une demande pour ça, parce qu'il y a vraiment, en tout cas, ce lieu avait beaucoup de succès. Les gens ont l'air de rechercher ces valeurs traditionnelles. Alors, bon, moi, ce que je me dis, c'est que peut-être c'est une sorte de valeur refuge, de vouloir retourner un peu vers le passé et la tradition, parce que c'est vrai que ce pays, il a connu, au cours des dernières décennies, toutes sortes de bouleversements. Donc peut-être que pour eux, c'est assez sécurisant et séduisant. Et bon, là, c'est vraiment mon interprétation personnelle. Vláčeš rôzne. Ide angla man de mire perša. De ja tu pale idem rokami be.
idem rokami ben, ir je dobla mana. Ja tu pale idem rokami ben, idem rokami ben, di to vla mana dre, e bu, idu te me java andre karčma. Ide palmara, mirite na avelo, do. Ide čami pija, ide čurika, ne. Dehoj mirirom nji. Ja me pia, ide čurika, ne. Oj, mriro mnji, joj, ljubi pe, ge. Ere.
Con Je me saoule, c'est la voix magnifique de cette chanteuse rome d'origine tchèque, Vera Bila, sur la première.
Infotrafic RSR.
À Vézna, dans le canton de Genève, la route de Thonon est à présent rouverte à la circulation entre la route d'Hermance et celle de Compoix. La police a terminé son travail sur le lieu de l'accident. Et puis dans le canton de Neuchâtel, le trafic ferroviaire reste interrompu entre les Hauts-Genevais et Chambrelien. Suite à un dérangement, il faut s'attendre à des retards et à des suppressions de trains. 14h34 sur la première, on parlait avec Pascaline Minet de ce rapport des Slovaques avec leur histoire. Et bien justement, c'est un historien qui est avec nous maintenant, Stanislav Kirschbaum, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour, merci d'être avec nous en direct de Toronto, où vous êtes professeur, directeur du département d'études internationales à la York University, au Glendon College à Toronto, au Canada. Donc, vous êtes un spécialiste des questions de sécurité, vous êtes un spécialiste aussi de l'Europe centrale, et puis également l'auteur de deux histoires de la Slovaquie en anglais. On a mis les références en lien sur notre site. On va parler avec vous de ces liens que les Slovaques, que vous avez comme Slovaques, aussi avec votre passé, avec votre histoire, avec vos traditions. Tout d'abord, peut-être une réaction au reportage de Pascaline Minet. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce que vous avez pu entendre ?
Eh bien, c'est ce que j'ai pu observer moi-même depuis que j'ai l'occasion d'aller en Slovaquie après la révolution velours, c'est-à-dire depuis 1990. C'est-à-dire qu'il y a un désir de garder certaines traditions qui sont de vieilles traditions, des traditions historiques, mais en même temps qu'il y a aussi des changements qui s'opèrent dans la première entrevue, lorsqu'il parle du fromage, de ce qui se passe, on fait passer du lait de vache pour du lait de brebis, alors que c'est le lait de brebis qui est nécessaire pour le fameux fromage Brinza. Donc, on constate à ce moment-là les changements qui se sont opérés. Mais généralement parlant, l'entrevue a fait ressortir de façon exceptionnelle et merveilleuse cet attachement qu'ont les Slovaques, c'est-à-dire au pays, mais aussi à l'extérieur, dans la diaspora, à leur passé, à leur tradition.
Mmh. Attachement, est-ce que vous diriez aussi idéalisation de ce passé ?
Oui, alors là, il faut dire qu'il y a un peu de cela, mais c'est inévitable parce que finalement, le passé, on le vit par ce qu'on entend, par ce qu'on voit et ce qu'on interprète. Donc, on n'est pas certain de connaître la réalité de l'époque, mais ce qui ressort, c'est ce qui est beau, ce qui est merveilleux, et ainsi, on l'idéalise.
Mmh. C'est ce passé ou cette histoire passée, elle est aussi présentée comme multiculturelle. Donc, même si on est dans quelque chose qui est de l'idéalisation, l'identité qui est dite est une identité multiple.
Oui, là vous avez raison, et ceci est un reflet de l'histoire des Slovaques, de l'histoire plutôt, disons, du territoire qui est la Slovaquie d'aujourd'hui, où habitent en majorité les Slovaques, mais aussi on a vu passer tant de population. Dans la deuxième entrevue, ceci est reflété dans le Skansen qui a été créé à Stara Lubovnia, et effectivement, c'est la Slovaquie, on croit que c'est un pays uniquement de Slovaques, mais effectivement, de par son histoire et de par sa composition démographique, c'est un pays pluriculturel. Mmh.
Stanislav Kirschbaum, vous êtes vous-même né à Bratislava en 1942. Oui. Vous n'avez passé que 3 mois dans votre pays, puisque votre papa a été nommé comme ambassadeur à Genève, d'ailleurs. C'est là où vous avez appris le français, que vous parlez parfaitement bien. C'est là qu'il a ensuite été, puis au Canada, un militant anticommuniste très actif, ce qui fait donc, notamment, vous n'avez pas pu retourner dans votre pays qu'après la chute du mur, donc 45 ans après l'avoir quitté. Quelle Slovaquie vous a-t-on raconté à vous en diaspora ?
Alors, c'était une Slovaquie que je décrirais comme un peu imaginaire, c'est-à-dire la Slovaquie que connaissaient mes parents, les relations familiales, les relations sociales, le pays sur le plan géographique, on pouvait se faire des images à travers les livres qu'on recevait, mais aussi ce que nous disaient les parents, par exemple lorsque ma mère allait faire du ski dans les Tatras, ou quand il s'agissait de faire les moissons, car elle habitait sur une ferme. Mon père aussi était d'un petit village, il parlait de sa vie. Alors, comme enfant, comme jeune homme, on a grandi dans une espèce de Slovaquie imaginaire. On n'avait aucune idée des transformations que le pays connaissait. Et même ceux qui avaient l'occasion d'aller rendre visite à leurs proches, le régime leur permettait d'y aller, revenaient avec pas toujours des descriptions qui étaient réalistes. Ils revenaient plutôt avec les souvenirs qu'ils avaient et nous transmettaient en quelque sorte les relations qu'ils avaient avec leurs proches. Mais on ne savait pas ce qui s'était passé et on s'en est aperçu uniquement lorsqu'on a eu la chance d'y aller à partir des années 90. Mmh.
Vous avez appris la langue, j'imagine.
Oui, mes parents ont toujours parlé slovaque à la maison, donc j'ai eu cette chance extraordinaire de parler slovaque à la maison et d'apprendre les langues dans les pays où j'ai vécu.
Et les traditions, quelles traditions ? Qu'est-ce qui a passé la frontière jusqu'en Suisse puis jusqu'au Canada ? Qu'est-ce que vos parents plutôt ont gardé de la Slovaquie qu'ils ont essayé de vous transmettre en termes concrets de traditions ?
Eh bien là, c'est plutôt difficile de trouver une réponse à cette question pour la simple raison qu'on vit dans un nouveau monde quand on quitte son pays, donc on doit adopter les traditions de ce pays. J'ai vécu au Québec, je vis en Ontario, je me sens canadien à part entière dans les deux parties du pays, et donc j'ai toutes les traditions canadiennes. Pour ce qui est des traditions slovaques, c'est plutôt certaines traditions culinaires, à cela on peut ajouter quelques traditions folkloriques, car nous nous sommes rencontrés en tant que Slovaques dans des associations, l'apprentissage de la langue, les danses et tout ça. Mais rien qui puisse identifier en nous quelque chose de spécial, même lorsqu'il y avait des fêtes où on se réunissait. C'était temporaire, c'était sur le moment, et ensuite on revenait dans le milieu dans lequel on se trouvait quotidiennement.
Vous avez l'impression que vous avez eu un rapport à un pays un peu figé, un peu comme les Skansen, où on est à la fois dans un village où les gens vivent et en même temps une sorte de musée.
Oui, là vous avez tout à fait raison. C'était le premier choc lorsque je suis arrivé à Bratislava en 1990. J'ai constaté que c'était un pays tout à fait différent. D'abord, il y avait encore les restants du régime communiste, les vieux camions soviétiques, les HLM absolument horrible qu'on voit à Petržalka lorsqu'on prend l'autocar de l'aéroport de Šverát pour aller à Bratislava. Les rues qui étaient sales, enfin, il y avait un tas de choses qui nous rappelaient, et ma famille me signalait certains éléments aussi. Donc on constatait une transformation qui s'était faite, transformation donc qu'on doit faire de l'imaginaire qu'on a dans sa tête vers la réalité qu'on voit devant soi. Et depuis, évidemment, j'ai vu ce pays se transformer, se moderniser, se mettre à la page d'un monde moderne.
Mmh. Mais cette Slovaquie qu'on vous a transmise, cette Slovaquie imaginaire, était-elle aussi idéale, c'est-à-dire sans défaut, sans péché ?
Parfois, on avait l'impression que c'était ainsi. Vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, cette Slovaquie idéale était rattachée aussi à un combat assez intéressant, c'est-à-dire le combat de l'identité. En Occident, on parlait très peu des Slovaques lorsqu'on parlait de la Tchécoslovaquie, et même des hommes politiques comme Gustav Husák ou encore Alexandre Dubček étaient présentés comme des Tchèques. Alors, il y avait une réaction, et de par cette réaction, on idéalisait un peu ce que nous étions. On oubliait qu'il y avait quand même aussi en Slovaquie des gens pas très bien, qu'il y avait des situations qui étaient plutôt malheureuses, mais non, le fait qu'on doive lutter pour son identité, pour sa langue, qu'on récusait l'idée que nous étions des Tchécoslovaques, on ne savait d'ailleurs pas ce que c'était, certainement nous n'étions pas des Tchèques, alors ceci créait une situation, comme vous le suggérez, d'une idéalisation qui était un peu poussée.
Mmh. D'ailleurs, le sous-titre de votre histoire de la Slovaquie, c'est « La lutte pour la survie ». Le terme est très fort tout de même.
Oui, et c'est un fil conducteur à travers toute l'histoire slovaque. C'est ainsi que je présente cette histoire dès les débuts, après la chute de l'Empire de Grande-Moravie au Xe siècle. On constate que les Slovaques font tout pour survivre. Pendant très longtemps, dans le royaume de Hongrie, cette survie, c'est une survie culturelle et linguistique. Elle devient politique au XVIIIe, XIXe siècle et ensuite au XXe, lorsque les Slovaques composent un nouveau pays avec les Tchèques. Il y a aussi une lutte pour la survie, car le pays se veut transformer les deux ethnies, les deux nations, en une nation qui s'appelle Tchécoslovaque. L'effort n'est pas réussi, on le voit, puisqu'il y a eu ce refus de la part des Slovaques de se faire, en fait, assimiler. D'aucuns vont trouver le terme un peu trop fort, mais je crois que, tout compte fait, si les Slovaques étaient devenus Tchécoslovaques, c'est une forme d'assimilation.
Est-ce que ce combat pour la survie va aussi avec l'exaltation de l'identité nationale, voire même du nationalisme? Votre papa était diplomate d'un régime tout de même très proche de l'Allemagne nazie, où justement on exaltait les sentiments nationalistes.
Oui, c'est une époque évidemment où le nationalisme était très fort à travers le monde et notamment en Europe. Mais le nationalisme slovaque, ce qui est très intéressant pour la période contemporaine, est assez muté dans la mesure où, ayant obtenu leur pays maintenant, on voit moins de ces manifestation de nationalisme qui existait dans le passé ou même dans la diaspora, c'est-à-dire ils ont leur pays, que leur pays avance, que leur pays se manifeste comme un pays à part entière dans la famille des nations. Donc il y a un atténuement de ce nationalisme, même si vous voulez signaler l'existence par exemple du Parti national slovaque, c'est pas un parti qui a vraiment très réussi à travers les différentes élections que le pays a connues depuis son indépendance. Mmh. Mais il reflète quand même certains sentiments chez certains Slovaques que l'identité slovaque n'est pas encore assez ancrée dans la majorité du peuple, qu'ils se laissent emporter par toutes sortes d'idées, ne serait-ce dans le passé par le communisme. Il y avait aussi ce qu'on appelait à l'époque des Magyaron dans le royaume de Hongrie, les Tchécoslovaques de la Tchécoslovaquie. Donc certains sont convaincus qu'il faut absolument renforcer cette identité. Mais je crois que c'est un réflexe chez d'aucuns, mais c'est pas général.
Et c'est pas votre avis à vous?
Non. Pour ma part, vous savez, c'est pas nécessaire de jouer du tambour nationaliste tout le temps. Il suffit de dire, bon, voici qui nous sommes, nous avons notre pays et les hommes politiques qui le dirigent, j'espère, ont le courage de leurs convictions, le courage de transmettre les valeurs, comme le font tous les autres pays, les intérêts de la population. Et il n'est pas nécessaire, comme c'était le cas dans les années 30, cette période très nationaliste à travers toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est pas le même portrait qu'on voit de l'Europe contemporaine.
Stanislav, excusez-moi, il y a un V à la fin de votre prénom et non un S. Kirschbaum, vous êtes avec nous en direct de Toronto. Je rappelle, professeur et directeur du département d'études internationales à la York University, au Glendon College à Toronto, donc au Canada. On va reparler avec vous de ce retour dans votre pays et puis de quelques années d'enseignement que vous avez donné au nord de Bratislava. Qu'avez-vous transmis à vos élèves? Qu'avez-vous dit de votre histoire et de votre identité, de votre Slovaquie à vous? On va en parler, ce sera après un titre. Alors, il faut que je m'en excuse extrêmement platement, mais on a eu énormément de peine à trouver ici des musiques qui viennent de votre pays. Donc là, on va entendre une chanteuse tchèque, c'est Barbara Gosza. Ça vous dit quelque chose?
Malheureusement pas.
Malheureusement pas, voilà. Bon, c'est une chanteuse tchèque, ça ne vous froisse pas trop?
Absolument pas.
On l'écoute.
Body to body.
Ça s'appelle I Want You, c'est signé donc Barbara Gossa, née effectivement de parents tchèques, élevée à Chicago, c'est tout près de chez vous, Stanislav Kirschbaum, je le rappelle, professeur à Toronto. Vous êtes retourné après 45 ans dans votre pays, votre papa y est retourné également. Vous nous avez parlé du choc qu'avait représenté la découverte d'un pays qui avait effectivement beaucoup changé. Ça, c'était à Bratislava. Est-ce que dans les campagnes qui, voilà, par définition, sont peut-être un tout petit peu plus préservés des changements. Est-ce que dans les campagnes aussi, les choses ont énormément changé? Est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a le plus frappé lorsque vous êtes retrouvé dans les campagnes slovaques?
Eh bien, j'ai constaté que le changement, comme vous le suggérez, était moindre que dans les grandes villes, mais néanmoins, au fil des années, avec une économie en marche, on constatait dans les campagnes qu'il y avait la construction de très beaux immeubles et même des maisons particulières qui étaient très belles. Donc, il était clair que même dans la campagne, il y avait une richesse qui se manifestait et donc qui changeait le visage de la campagne. À d'autres égards, la campagne n'a pas beaucoup changé. J'avais constaté chez mes cousins, par exemple, que les habitudes qu'ils avaient développées lors du régime communiste, cette économie souterraine de faire de la viande, avoir des légumes, avoir des fruits, tout ça, et ne pas les vendre, mais se les prêter ou se les donner les uns aux autres, fonctionnait tout le temps. Donc, il y a changement qui se manifeste, qui est clair. Maintenant, avec les autoroutes, on a accès à ces villages beaucoup plus facilement qu'auparavant. Mais dans l'ensemble, c'est un changement beaucoup plus lent.
Mmh. Vous retournez régulièrement dans votre pays. Vous y avez enseigné durant 4 ans. Indépendamment des matières que vous avez enseignées à vos étudiants, qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre de votre Slovaquie à vous? Stanislav Kirschbaum?
Alors là, je dois avouer que très peu, parce qu'on m'a demandé d'enseigner dans un département de sciences politiques un cours sur la diplomatie, un cours sur la sécurité et les droits de la personne. Et essentiellement, s'il y avait quelque chose en ce qui concernait mon passé ou mon attachement au pays, c'était plutôt dans les conversations avec les étudiants, car j'étais là pour faire des cours magistraux. Et ce que j'ai surtout trouvé très intéressant, c'était une façon différente de percevoir le professeur et le comportement des étudiants. Ils n'étaient pas du tout habitués à une manière interactive, c'est-à-dire que je parlais, je leur posais des questions, j'avais des discussions avec eux. Pour eux, c'était le cours magistral, le professeur disait, les étudiants écrivaient, tout le monde se taisait et c'était terminé.
Qu'est-ce que vous avez reçu, vous, de vos étudiants?
Eh bien, d'abord, ils ont énormément amélioré mon slovaque, parce que je dois avouer que la langue scientifique, je la possédais pas tellement bien. Donc, j'ai dû apprendre toute la terminologie, j'ai dû apprendre à m'exprimer de façon claire et nette. Et eux aussi ont obtenu certains éléments de l'anglais, car toutes mes notes étaient en anglais. Alors, lorsque j'avais un terme à leur proposer, d'abord, je disais le terme en anglais. Et puis ensuite, quelqu'un me disait la traduction slovaque. Donc, on avait cette interaction linguistique et qui, en même temps, était riche pour les deux côtés.
Mmh. Vous n'avez toujours pas de passeport slovaque? Enfin, toujours pas. Peut-être que vous n'en souhaitez pas?
Non, je suis canadien. Je suis arrivé au Canada à l'âge de 7 ans. J'ai été, comme disent les sociologues, socialisé canadien, tant du côté français que du côté anglais. C'est mon pays. Mmh. J'ai épousé une Canadienne. J'ai des enfants qui sont nés ici. Donc, de ce côté-là, oui, je suis canadien.
Vous avez toujours un œil, bien évidemment, sur votre pays. Comment, et c'est une question qui nous intéresse, nous les Suisses, hein, parce qu'on a une partie de notre population qui se sent menacée par l'extérieur, par l'étranger. Nous avons aussi des partis politiques qui alimentent, exploitent cette peur d'une sorte de perte d'identité nationale. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution du sentiment national dans votre pays? Est-ce que on va en Slovaquie vers plus d'ouverture, parce qu'aujourd'hui le pays n'est plus directement menacé par ses voisins? Ou bien, au contraire, est-ce qu'on va garder une sorte de méfiance vis-à-vis de ce qui vient de l'extérieur?
Mais vous avez les deux réactions. La méfiance, on la retrouve dans tous les pays. Après tout, Jean-Marie Le Pen en France, c'est un peu cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire ceux qui croient que les valeurs ne sont plus protégées, qu'elles sont menacées. Et je parlais tout à l'heure du Parti national slovaque. C'est ce parti qui véhicule ces valeurs-là. Mais d'un autre côté, on constate que les Slovaques se sont... je dirais un peu calmé, dans le sens où cette lutte que nous connaissions n'est plus là. Je la constate aussi dans la diaspora, qu'il y a une différence entre les générations. Ceux qui ont toujours vécu la lutte continuent cette lutte, alors que les jeunes, eux, sont tout à fait à l'aise, et ils se rendent compte, écoutez, nous avons notre pays, nous avons notre langue, ouvrons-nous au monde, faisons partie de la société des nations, et il n'y a aucune raison d'avoir une autre attitude. Lorsque, en l'an 2005, la Slovaquie a gagné le championnat de hockey mondial. À ce moment-là, il y a eu une liesse incroyable à travers le pays, à travers le monde. Les drapeaux slovaques, on les voyait partout. Je crois que ça a été un moment clé qui a cimenté cette identité. Car beaucoup, après 93, étaient incertains du bien fondé de l'indépendance. Mais au fil des années, maintenant, c'est clair. Savez-vous qu'il n'y a jamais eu de si bonnes relations avec nos voisins tchèques qu'il y a maintenant? Que lorsqu'on partageait le pays avec eux, c'était toujours des chamailles, c'était toujours des problèmes de famille en quelque sorte. Aujourd'hui, ce sont deux voisins qui se comprennent, la langue est assez proche, et qui vont de bon train et qui travaillent ensemble.
Vous êtes à la juste distance. Merci beaucoup, Stanislav Kirschbaum, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu une éducation catholique?
Oui.
Très bien, parce que là, il nous reste quelques minutes d'antenne. On va prendre des nouvelles, comme tous les mercredis, d'un reporter qui est en train de réaliser des carnets de route. Il est au Vatican. On vous laisse en ligne, Stanislav, si vous voulez écouter ce qu'on
avec
va
essayer
d'avoir avec Frédéric Faux, qu'on n'arrive toujours pas à joindre. Il est toujours pas là. On n'arrive pas à le joindre pour l'instant. Bon, on va rester encore quelques minutes avec vous,
avec
Stanislav.
Plaisir.
Parlons de cette éducation catholique. On parle pas du tout du facteur religieux dans les reportages de Pascaline Minet. C'était quelque chose qui a construit aussi l'identité, votre identité de Slovaque. On est à la frontière entre la zone catholique et la zone slave, bien évidemment.
Bon, écoutez, oui, l'identité catholique est très importante pour les Slovaques et n'oublions pas que la contre-réforme en Europe centrale a été lancée de Slovaquie, notamment de Trnavas, où il y avait une université qui fut fondée en 1635. Et c'est dans cette université que j'ai enseigné entre 2004 et 2008. Le cardinal Pazman, qui était le principal auteur de la contre-réforme en Europe centrale, a effectivement eu des conséquences, enfin ses actions, ses activités ont eu des conséquences profondes en Slovaquie. Et à une certaine époque, 19e et 20e siècle, religion, langue et culture se rassemblaient pour l'identité. Et cela ne veut pas dire que les protestants, car nous avons la Slovaquie, une population protestante importante, et les protestants ont joué, notamment les luthériens ont joué un rôle très important dans la création de la langue slovaque, la langue écrite plutôt que le vernaculaire, car le vernaculaire existait depuis la nuit des temps, mais on voit, il y a eu, et parfois il y a encore quelques luttes confessionnelles, elles ne sont pas très importantes, mais c'est pour vous signaler, pour répondre à votre question, l'importance de la religion, et je cherche à signaler ici surtout l'importance de la religion catholique pour la définition de l'identité nationale slovaque.
Eh bien, on va, j'allais dire à la Mecque, c'est pas le cas. On part au Vatican maintenant. Merci beaucoup, Stanislav Kirchbaum.
Ça fait plaisir. Merci bien de m'avoir téléphoné.
Ça nous a fait plaisir de vous avoir aussi, de nous parler de votre enfance et de votre analyse aussi de cette société slovaque. On est en ligne avec Frédéric Faux. Bonjour.
Bonjour.
Ah bah c'est pas facile de vous joindre. Vous êtes où?
Je suis sur la place Saint-Pierre, en face de la basilique, pas très loin de la poste vaticane. J'ai essayé de me trouver un petit recoin parce qu'il y a beaucoup de monde.
Qu'est-ce qui se passe?
J'ai vu le pape aujourd'hui.
Ah bon? Et puis?
Voilà, il y avait audience publique. Donc quand le pape est à Rome, mercredi, il y a une audience publique. Des fois, c'est à l'intérieur du Vatican, c'est une grande salle. Mais là, comme il fait beau, c'était à l'extérieur. Et bon, la place était pleine. J'étais avec un groupe de pèlerins qui venaient de Gambie, en Afrique.
Et qu'ils étaient, j'imagine, heureux d'être là. Comment ça s'est passé?
Ah oui, ils étaient très heureux. Les pèlerinages à Rome, nous qui sommes européens, ça ne nous paraît pas extraordinaire, mais pour des catholiques qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, enfin de pays lointains, c'est vrai que ça leur fait quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'émouvant pour eux.
Vous avez pu faire plusieurs rencontres?
Oui, en tout cas, j'ai essayé, c'est pas facile. L'administration du Vatican, c'est vraiment un cauchemar. En fait, il n'y a pas vraiment de service de communication. Enfin, il y en a plusieurs. Alors, je suis bardé d'accréditation, mais qui ne servent à rien. Parce qu'en fait, tout se fait en négociation avec des évêques. On nous amène dans des bureaux pour parler avec des gens. Et tout ça, pour faire des choses assez anodines. Je ne demande pas à suivre le pape pendant une journée. C'est juste pour voir un petit peu, parler un petit peu du Vatican de l'intérieur. J'espère quand même que j'arriverai à vous obtenir quelque chose.
Eh ben, on peut pas tellement allumer de cierges pour vous, mais on peut vous dédicacer ou dédier un Ave Maria.
Voilà, accompagnez-moi de vos prières.
D'accord. Nina Hagen, ça vous dit?
Ah oui.
Très bien. Merci Frédéric. Bonne suite. Bonne
Merci
chance.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, désolé Madame Hagen, on peut pas passer un petit peu plus de votre Ave Maria. C'était magnifique. Merci beaucoup Pascal Emine et Cyril Desprez. Excellent après-midi. Il est 15h sur la première.